Il est 17h, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Marc Beaudoin. Marc, c'est Sophie Châtel qui remplacera William Amos aux prochaines élections fédérales.
Cet après-midi, le 104,7 FM annonçait que Sophie Châtel a été élue par acclamation pour succéder à William Amos comme candidate libérale dans la circonscription de Pontiac aux prochaines élections fédérales. Sophie Châtel est membre des comptables professionnels agréés du Canada. Dans les 5 dernières années, elle a occupé le poste de chef d'unité des conventions fiscales au sein du Centre de politique et d'administration fiscale pour l'Organisation de coopération et de développement économique. Elle a aussi travaillé pour Finance Canada ainsi que l'Agence du revenu du Canada. Hier, William Amos a annoncé qu'il quitterait la vie politique à la fin de son présent mandat. Le 104,7 FM avait rapporté suite à cette annonce que la mairesse de Chelsea et préfète de la MRC des collines de l'Outaouais, Carol Green, avait manifesté un intérêt à lui succéder. Pour l'instant, le Parti conservateur du Canada a confirmé que Michel Gauthier sera candidat dans la circonscription de Pontiac, alors que Sean MacArthur sera candidat pour le Parti vert du Canada. Le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique n'ont toujours pas annoncé qui sera candidat lors des prochaines élections fédérales.
Et on revient sur ces 3 courses du défi coureur des bois qui ont été annulées.
La santé publique a publié le 28 juillet dernier une mise à jour des exigences requises pour les activités où les participants suivent un parcours ou un circuit. Le pôle d'excellence en récréotourisme de l'Outaouais a pris la décision d'annuler les 3 défis coureurs des bois en raison qu'il serait difficile de répondre à ces exigences. Marlène Tonnard, présidente du PERO, mentionne que les heures de départ doivent être distribuées à l'avance, ce qui est difficile étant donné que plusieurs s'inscrivent le jour même. De plus, les regroupements ne sont pas autorisés et le port du masque est obligatoire lorsque les participants sont en mouvement sur le terrain, ce qui devient une tâche de surveillance complexe à accomplir. D'autres éléments s'ajoutent à cela, la présidente du PERO explique.
Ils nous disent aussi qu'il faut y avoir des installations sanitaires partout sur le parcours. Écoutez, on est dans des sentiers de bois. On a une toilette dans le stationnement au départ, c'est tout. Donc encore là, nous ne serions pas conformes. Un des problèmes aussi, c'est qu'on ne peut pas prévoir le nombre de participants. Et on nous dit aussi que le site doit avoir une superficie minimale de 5 mètres carrés par personne admise. Comment voulez-vous qu'on applique ça? Dans 2 des 3 sites, en tout cas, c'est impossible à appliquer.
Marlène Tonnard précise également qu'il y avait un manque de ressources humaines et financières pour assumer la mise en place de ces mesures. Les quelques participants qui s'étaient déjà inscrits seront remboursés. L'équipe du PERO est désolée pour la situation.
On s'excuse auprès des gens qui étaient vraiment décidés, emballés à venir participer à notre activité. On est vraiment désolés pour la déception qu'on apporte à plusieurs des participants. Si je peux me permettre un petit éditorial, je pense que plus les gens seront vaccinés et décideront d'aller se faire vacciner, plus on va avoir des chances de retrouver une vie normale.
Les gens sont invités à réaliser les parcours en solo ou en petits groupes en attendant le retour de l'événement à l'été et à l'automne 2022. Rappelons que les courses devaient se dérouler les 15 août, 5 et 26 septembre, respectivement sur les sentiers situés à Grand-Remous, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau et Cayaman.
On revient sur ce meurtre qui a lieu à Kitigandibi il y a quelques semaines. Il y a le conseil de bande qui pourrait évincer de son domicile la fille de Shannon Ferguson.
Le conseil de bande de Kitigandibi aurait l'intention d'évincer de son domicile la fille de Shannon Ferguson, la résidente de Kitigandibi qui aurait été assassinée par son fils en juillet dernier. Dans une lettre adressée au père de la jeune femme, Patrick Ojik, et signée par le chef de la communauté Dylan White Duck, il est indiqué que le domicile de la rue Kakam dans lequel elle réside est une unité de location qui n'est pas destinée à la vente. Cette lettre fait suite à des démarches entamées par la famille de la jeune femme dans le but d'acheter la résidence où elle restait avec sa mère depuis 2009. Des membres de la communauté se sont rassemblés aujourd'hui devant les bureaux administratifs de Kitigandibi et ont recueilli des signatures toute la journée pour démontrer au conseil de bande le mécontentement de la communauté face à la possibilité que la fille de Shannon Ferguson, Abigail, soit évincée de son domicile. Patrick Ojik, le père de la jeune fille, était présent pour l'occasion. D'abord contrarié par la lettre qu'il a reçue, M. Ojik se dit optimiste quant à une future rencontre qu'il aura demain avec le conseil de bande. Voici ses commentaires.
J'étais fâchée car c'était simplement un non et je n'ai pas eu l'autorisation d'être présent au moment de la décision. Ils m'ont dit qu'on allait avoir une rencontre demain. Nous allons voir comment ça va aller. Nous ne savons pas encore quelle va être la décision, mais je crois que ce sera positif.
Présente à la manifestation et s'occupant d'une pétition qui sera adressée au conseil de bande, Alexandra Bracoupé, voisine de la défunte, précise ce pourquoi il était important pour la communauté de se mobiliser.
Le conseil de bande a refusé de la laisser continuer d'y vivre ou d'acheter la maison. C'est la seule maison qu'elle a connue et nous sommes ici aujourd'hui pour protester, pour s'assurer que notre voix et celle d'Abigail est entendue et que les enfants de notre communauté ne deviennent pas sans abri si quelque chose devait arriver à leurs parents. Jusqu'à maintenant, nous avons la signature de près de 400 membres de la communauté.
Madame Bracoupé estime que les enjeux liés aux maisons louées par le conseil de bande sont multiples et espère que la mobilisation d'aujourd'hui servira à les dénoncer.
Abigail n'est pas la seule dans cette situation. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans ces unités. Il y a un certain temps, c'était supposé faire partie d'un programme pour louer, puis acheter une maison pour les personnes qui n'avaient pas les ressources pour construire une maison. Le conseil a refusé de continuer le projet. Les gens ont investi dans ces maisons pour plusieurs années en mettant leur temps, leur argent et leur cœur. Si quelque chose arrivait à n'importe lequel de ses parents, les enfants deviendraient sans abri. Et c'est quelque chose que nous n'accepterons pas.
La résidence d'Abigail fait partie d'un ensemble d'habitations construits entre 2002 et 2010. Selon le conseil de bande de Kitikandzibi, ces résidences n'ont jamais été louées dans le but d'être vendues, comme le laissent entendre les organisateurs de la mobilisation. Il est également indiqué que les élus sont conscients qu'il s'agit d'une période difficile pour Abigail et que cette décision n'est pas prise de gaieté de cœur, mais qu'elle est nécessaire afin de faire respecter la réglementation en vigueur à Kitikandzibi.
Et on parle de cette pénurie d'automobiles qui touche les concessionnaires de la région.
Dans les dernières semaines, les résidents de la vallée de la Gatineau ont pu constater le faible nombre de véhicules stationnés dans les cours des concessionnaires. Cette situation, causée par du retard au niveau de la fabrication de puces électroniques nécessaires à la fabrication des véhicules, occasionnerait un retard important au niveau des livraisons. Denis Gendron, propriétaire de Gendron Automobile, précise que cette situation qui cause une véritable pénurie de véhicules affecte les concessionnaires de la région de différentes façons.
Les gens doivent s'apercevoir quand ils passent dans les cours des concessionnaires, peu importe la marque, s'aperçoivent que les cours sont pratiquement vides. C'est notre cas, nous autres, on est pratiquement vides. Écoute, on a seulement, comme c'est là, 3 véhicules neufs à vendre, c'est tout. Là, on a un autre problème, on vend plus de véhicules neufs ou pratiquement plus. C'est plus dur à vendre, comme on dit. Et que ça fait ça, c'est qu'il y a moins de véhicules usagés aussi qui prennent l'échange. C'est que même les stocks de véhicules usagés sont en grosse baisse aussi.
Si un engouement envers l'achat d'un véhicule était présent avant que la pénurie d'automobiles ne s'installe, M. Gendron dit constater que les prix des véhicules neufs semblent demeurer stables. Néanmoins, il affirme avoir constaté une forte hausse dans les prix des véhicules d'occasion.
Avant que ça arrive, il y avait vraiment un très gros engouement pour les véhicules. Malheureusement, le manque de puces électroniques a fait qu'il n'y a plus de véhicules sur le marché à vendre, ou il n'y a pratiquement plus à vendre. C'est que dans le neuf, il n'y a pas de hausse vraiment, c'est le même prix, sauf dans l'usager, il y a une très grosse hausse de prix dans les usagers. Écoutez, là, il y a beaucoup de vendeurs d'usagers qui sont sur le marché, c'est normal aussi, mais ils n'ont pas de véhicules à vendre, c'est que c'est sûr que les gens ils payent plus pour leurs usagers.
Notons qu'habituellement, Gendron Automobile compte sur place un nombre de véhicules neufs et usagés de 125 véhicules. Dans les dernières semaines, le nombre de véhicules neufs en réserve est descendu à 3.